Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
À 3 semaines de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, notre regard se tourne aujourd'hui vers d'autres fonds d'investissement, moins connus peut-être que les fonds souverains dont nous parlions hier, les fonds de pension. Largement répandus dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Allemagne et dans le nord de l'Europe, ils sont presque inexistants en France, où domine encore un système de retraite par répartition. Ces fonds de pension, chargés d'investir l'épargne des futurs retraités, brassent des sommes astronomiques qui dépassent parfois les PIB des États. Alors va-t-on jouer l'avenir des retraites sur les marchés financiers ? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des fonds de pension, nous accueillons autour de la table Sandra Rigaud, maîtresse de conférence à l'Université Paris 13 et autrice d'une thèse intitulée « Stratégie et gouvernance des fonds de pension », thèse qui a reçu les prix de la Fondation Benjamin Delessert et de l'Association nationale des docteurs S sciences économiques et gestion. Avec nous également Stéphanie Payet, analyste en charge de la question des retraites à l'OCDE. À 14h50, Xavier Martinez sera parmi nous pour nous présenter son journal de l'écho. Stéphanie Payet et Sandra Rigaud, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme je le disais, on a parlé hier des fonds souverains, ces fonds qui sont créés par les États. Comment est-ce qu'on pourrait définir à présent les fonds de pension ? Ils appartiennent eux aussi à la grande famille des fonds d'investissement, Sandra Rigaud ?
Oui, tout à fait. Donc, les fonds de pension font partie de ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les plus gros investisseurs sur les marchés financiers. C'est des fonds qui ont une particularité, c'est que en fait, ils collectent une épargne qui vient des salariés pour la placer sur les marchés des capitaux, des marchés financiers, avec l'objectif de délivrer des pensions de retraite aux salariés qui ont cotisé une fois qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Donc, c'est des fonds selon les pays qui peuvent atteindre une taille très très importante. Hein, donc Stéphanie Payet, mais en gros, on est sur la totalité des actifs sous gestion des fonds de pension, c'est plus de 20 trillions de dollars, donc c'est plus de 20 000 milliards de dollars. Donc
des sommes absolument considérables. Mais alors, pour bien comprendre peut-être, Stéphanie Payet, il faudrait voir la différence entre ces fonds de pension que Sandra Rigaud vient de définir et d'autres types d'investisseurs institutionnels comme l'assurance vie par exemple. Quelle différence il y a entre les deux ?
La différence fondamentale, c'est l'objectif de l'épargne. Dans un plan de retraite, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser l'argent qui a été accumulé au cours de la carrière pour financer la retraite. Donc, en théorie, et dans la plupart des pays, c'est le cas, l'argent est bloqué de manière plus ou moins forte jusqu'à ce que l'épargnant arrive à l'âge de la retraite. Et ensuite, l'épargne qui a été accumulée peut être transformée en rente afin de donner un revenu qui va durer jusqu'à ce que l'épargnant meure. Donc, alors que l'assurance vie, finalement, vous pouvez la débloquer à différents moments de votre vie pour vos enfants, pour leurs études, pour acheter une maison. Donc, l'objectif de l'épargne n'est pas le même.
Alors, on va voir qu'il y a différentes régulations selon les pays autour de ces fonds de pension. Mais il faut sans doute bien comprendre que les fonds de pension relèvent d'un système par capitalisation, un système qui s'oppose au système par répartition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Sandra Rigaud, la différence entre ces deux systèmes ?
Oui, bien sûr. Donc, un système de retraite par répartition, en fait, c'est un système de retraite par solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les cotisations des actifs actuels paient les retraites des retraités actuels. Donc, on a une solidarité entre les actifs et les inactifs. C'est-à-dire que celui qui va cotiser ne va pas le faire pour lui, mais pour un inactif actuel. Donc ça, c'est très important.
Et ça, c'est le système qui domine en France.
Exactement. Et puis dans certains pays, un petit peu de l'Europe du Sud, hein, Europe continentale. Et puis vous avez le système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire que en fait là, chaque travailleur va cotiser pour lui, D'accord. Et auprès d'un fonds de pension, qui est une entité différente de l'employeur. Et ce fonds de pension va placer ses cotisations sur les marchés, mais pour lui délivrer une pension de retraite une fois qu'il aura atteint l'âge de la retraite. Mmh. Donc c'est un système individualiste.
Un système que l'on retrouve aux États-Unis, Stéphanie Payet, même si ce serait peut-être un peu trop rapide que d'estimer que le système de retraite aux États-Unis ne fonctionne que sur la capitalisation.
Oui, tout à fait. On a tendance quand on pense fonds de pension, on pense tout de suite aux États-Unis et notamment à la crise de 2008 qui a été beaucoup médiatisée. Mais leur système de sécurité sociale délivre à peu près la moitié déjà des revenus aux retraités.
Donc, c'est un régime de base qui existe depuis 1935 et lui qui fonctionne vraiment sur la répartition.
Qui fonctionne complètement en répartition et l'épargne. Par capitalisation est volontaire et essentiellement via l'employeur. C'est-à-dire ce sont des plans de retraite professionnels où l'employeur va décider de lui-même, donc c'est volontaire pour l'employeur, d'offrir un plan de retraite à ses employés. Et ensuite, c'est volontaire aussi pour les employés de décider ou non de participer dans ce plan de retraite.
Mais ce qu'on constate, c'est qu'en effet, la plupart des salariés cotisent également à des fonds de pension aux États-Unis, Sandra Rigaud, donc c'est qu'il y a quand même véritablement un besoin.
Oui, alors juste pour peut-être compléter ce qui vient d'être dit, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que vous avez plusieurs types de fonds de pension. Et il y en a vraiment, on distingue deux catégories de fonds de pension. Vous avez des fonds de pension à prestations définies et des fonds de pension à cotisations définies. Dans le fonds de pension à prestations définies, en fait, souvent, la filiation est obligatoire le risque, qu'ils soient financiers, c'est-à-dire liés au placement sur les marchés financiers, ou bien les risques qu'on appelle extra-financiers, c'est-à-dire de longévité, sont portés par l'employeur et non pas l'employé, non pas le salarié. D'accord ? Par contre, dans le fonds de pension à cotisation définie, l'affiliation est facultative en général. Hein, je grossis le trait pour essayer de trouver une typologie parce que c'est vraiment il y a vraiment plein de types de fonds de pension. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que le risque financier et le risque de longévité, hein, donc démographique, ça, est porté par le salarié.
Or, ce que l'on constate, c'est que là où les premiers, donc ces plans dont vous
prestations
définies, voilà, étaient davantage majoritaires, ils sont devenus minoritaires par rapport aux plans à contribution définie à partir des années 90 environ.
Je dirais oui, fin des années 90. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les fonds de pension, les premiers fonds de pension, en fait, les fonds de pension se sont vraiment généralisés après la Deuxième Guerre mondiale. Et comment ? Par des incitations fiscales. Parce que, comme l'a dit Stéphanie, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur. Hein. Il le fait parce que, généralement, ça lui rapporte fiscalement. Et ça a marché pendant de 1945 jusqu'à les années 80. Et ce qu'il proposait, en général, l'employeur, c'était essentiellement des fonds de pension à prestations définies. Donc, c'était favorable à l'employé. À partir des années 80-90, on observe en fait une situation inverse, c'est-à-dire que les employeurs ont commencé plutôt à proposer des fonds de pension à cotisation définie, parce que il fallait bien partager d'une certaine façon à la fois les risques financiers et les risques de longévité. Donc en fait, les fonds de pension à prestation définie sont des gros fonds, d'accord ? Donc en termes de nombre, ils sont moins nombreux, mais ils collectent beaucoup d'épargne. Et là, depuis les années 90, en fait, ils ont dépassé les fonds de pension à cotisation définie, ont dépassé en termes d'épargne collectée les fonds de pension à prestations définies.
Vous parlez des années 90 et justement, je vous propose d'écouter Bill Clinton lors d'une conférence de presse le 11 avril 1996.
Il y a énormément de petits entrepreneurs qui essaient de faire les choses bien, pas seulement pour leur entreprise, mais pour leurs salariés. Nous voulons les aider à proposer des plans de retraite et la sécurité à leurs employés. Il y a énormément de salariés qui ont peur de perdre leur retraite si leur travail est mis en danger. Nous voulons qu'eux et leur famille aient cette sécurité quand ils travaillent et qu'ils font de leur mieux.
When they're out there working hard and doing the best they can. I have said many times that we are living in an age of remarkable possibilities.
Nous vivons à une époque où tout est possible. De plus en plus d'Américains ont la possibilité de vivre leurs rêves.
But we also have significant
challenges. Mais ce n'est pas sans d'importants défis.
Bill Clinton, que l'on vient d'entendre, cherche à ce moment-là, dans les années 90, à profiter de la bonne santé américaine pour développer ses fonds de pension, Sandra Rigaud.
Les fonds de pension se portaient déjà très bien avant l'arrivée de Bill Clinton. Je veux dire, l'essor des investisseurs institutionnels et donc les fonds de pension, ils datent des fins des années 70, début des années 80. Et ça, pour des raisons, il y a des facteurs d'offre et de demande. Le facteur d'offre, c'est vraiment l'incitation fiscale, plus la déréglementation qu'on a connue, les mutations financières des années 70. Et les facteurs de demande, c'est que à partir des années 80-85, vous avez toute une population qui arrive à l'âge où, dirons 40-45 ans, où ils peuvent, accumuler un excédent d'épargne. Donc en fait, et où est-ce qu'ils vont placer cette épargne excédentaire? Eh ben dans des fonds de pension, parce que vous avez eu le baby boom en 45. Donc en 45, les baby boomers ont, enfin en 85, les baby boomers ont 40 ans, 40-50 ans, et donc ils ont un excédent d'épargne qu'ils vont placer dans les fonds de pension.
Et vous disiez que dans ces plans à cotisation définie, le risque pesait davantage sur le salarié, mais est-ce que le salarié n'a pas pour en contrepartie davantage de liberté dans ses placements ?
Oui, tout à fait. Il y a certains avantages, comme des droits de portabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent, quand ils ont cotisé auprès d'un employeur, s'ils changent d'employeur, en fait, ils peuvent reprendre tous leurs droits et l'épargne qu'ils ont accumulée. Donc il y a des avantages, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire que le risque de marché, c'est-à-dire le risque de sous-performance du fonds, il est quand même porté par le salarié. Et donc je ne l'ai pas dit, mais je reviens sur ma différence entre fonds de pension à prestation définie et fonds de pension à cotisation définie. Le risque dans le fonds de pension à cotisation définie, la pension, elle dépend, le montant de la pension, il dépend en grande partie de la performance du fonds. C'est-à-dire que si le fonds de pension ne performe pas bien, le risque est porté par le salarié. Et ça se matérialise comment? C'est-à-dire qu'on va revenir un peu à ce qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'on va réduire, le montant de la prestation retraite, ou bien on va augmenter les cotisations, ou alors on va revenir sur l'allongement de la durée de cotisation ou l'âge de départ à la retraite.
On va voir l'impact effectivement des crises financières sur la bonne santé de ces fonds de pension, mais peut-être un mot sur l'actualité. En l'occurrence au Chili, les mouvements sociaux ont aussi été provoqués par des retraites jugées trop basses, et le président Sébastien Piñera a d'ailleurs proposé une hausse de 20% des pensions de retraite les plus basses. Or le Chili, c'est un pays où les retraites fonctionnent par capitalisation individuelle auprès de fonds de pension privés également, Stéphanie Baillet.
Oui, tout à fait. Mais le problème principal au Chili, c'est pas tant le fait que ce soit des pensions par capitalisation, même si, bon, comme l'a dit Sandra, avec des plans à cotisation définie, les risques financiers et de longévité sont supportés par les individus. Mais le gros souci au Chili, c'est que les seules cotisations qui sont faites dans ces plans, c'est 10% du salaire du salarié. L'employeur ne cotise pas du tout. Et donc, c'est tout ce que vous avez pour financer votre retraite. Pour comparer, dans la plupart des pays européens, les taux de cotisation, que ce soit système par répartition ou système par capitalisation, c'est de l'ordre de 20, 25, voire 30% dans certains pays. Donc, vous ne pouvez pas obtenir les mêmes prestations avec des cotisations qui sont deux, voire trois fois moindres. Et finalement, il y a eu un problème de communication au départ au Chili, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des estimations sur le nombre d'années que les gens allaient cotiser dans le système et sur les performances aussi qu'obtiendraient les fonds de pension. Et au niveau performance, ils ont très très bien démarré, mais finalement le Chili est en train de converger vers les performances qu'on obtient maintenant dans les pays européens ou anglo-saxons, donc moindres que les 8 voire 12% à une certaine époque. Et le deuxième souci au Chili, c'est qu'il y a beaucoup d'informalité sur le marché du travail. C'est-à-dire que les gens vont et viennent entre un employeur formel et un employeur informel. Donc, vont et viennent à cotiser, puis arrêter de cotiser. Donc, ils n'ont pas une durée de cotisation de 40 années. Mais au lieu de 40 années, ils vont avoir 20, peut-être même 30 années.
Alors, avant d'en venir à la France, où la question se pose également, cette question des fonds de pension, un dernier mot sur notre tour d'horizon des différents systèmes qui existent. Vous avez cité les pays d'Europe du Nord, Stéphanie Payet. Certains pays comme le Danemark ont mis en place un régime public capitalisé. Alors, quelle est la différence avec les régimes que l'on vient de décrire? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, au Danemark, vous avez un système public qui a un mélange entre de la capitalisation et de la répartition. Et donc la partie qui va pour financer la capitalisation est finalement assez faible dans le système public. Mais donc ils ont décidé, comme en Suède d'ailleurs, d'avoir un mix au niveau du système de retraite obligatoire entre de la capitalisation et de la répartition.
Donc, le point central, c'est l'obligation, à la fois pour les employeurs et pour les salariés.
Tout à fait. Donc les cotisations sont réparties entre employeurs et salariés. Dans ces deux pays, que ce soit le Danemark ou la Suède, les fonds de pension sont choisis de manière jointe entre les représentations de l'employeur et les représentations des salariés. Donc ça se fait au niveau vraiment d'accord bilatéral, ce qui fait que ça fonctionne assez bien. Et qu'il y a que les gens se sont d'accord pour continuer ce système. Il n'y a pas de remise en cause du système par capitalisation.
Alors qu'en France, justement, la question se pose, est-ce qu'il faut passer d'un système de répartition à un système où on introduirait davantage de capitalisation? Je vous propose d'abord de revenir en 2015, quand Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie.
Nous sommes très bons, en France, dans le financement bancaire. Le financement bancaire, par dette, il était très adapté dans une économie de rattrapage. L'économie de disruption dont on parle depuis tout à l'heure, quelles qu'en soient les formes, c'est une économie qui a besoin de fonds propres, de capital. Il faut développer une forme de fonds de pension à la française et adapter le cadre fiscal à ce changement. Et c'est ça aussi que je compte proposer dans les prochaines semaines, avec entre autres Michel Sapin, parce que on doit participer à cette révolution, sinon la belle affaire, on pourra créer des pépites, mais le capital étant ailleurs, la facilitation d'ouvrir les données étant ailleurs, elles iront qui faire leurs essais cliniques en Allemagne ou au Canada, qui se financer à Singapour ou aux États-Unis.
Sandra Rigaud, que vous inspire ces propos d'Emmanuel Macron, donc qui propose déjà des fonds d'investissement, la création de fonds de pension en France, c'était en 2015.
J'invite Emmanuel Macron à regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, est-ce que la situation des retraités américains est enviable? Est-ce qu'il faut essayer de copier le modèle américain et essayer de l'adapter en France? Moi, je sais pas, parce que je pense que comme vous l'avez dit, en fait, les fonds de pension américains ont connu deux crises en moins de 10 ans, hein, en 2001, de la bulle technologique, et puis en 2007-2008, la crise financière qui est devenue systémique, hein, en 2008. Et quand il y a une crise, hein, ça se traduit évidemment sur les marchés boursiers par des pertes. Donc en 2008, hein, c'est moins 40% sur les marchés boursiers. Et comme je vous l'ai dit, hein, comme les fonds de pension, le montant de la prestation, elle dépend de la performance du fonds. Donc quand vous avez des fonds de pension qui enregistrent moins 40% de performance sur une année, pour rattraper ces pertes-là, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Ça veut dire que si vous avez des retraités qui étaient proches de l'âge de la retraite, vous mettez vraiment, les fonds de pension sont dans une situation très délicate.
Et en même temps,
respecter leurs engagements contractuels.
Quand on entend Emmanuel Macron, on se pose la question des avantages économiques de ces fonds de pension. Qu'est-ce qu'ils pourraient permettre en France? Pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui poussent pour la création de fonds de pension en France?
Alors, il faut bien distinguer la théorie et la pratique. Donc, en théorie, oui, les fonds de pension, les investisseurs institutionnels, ça s'occupe de la socialisation des risques de long terme. C'est-à-dire, nous, ce qu'on peut pas faire au niveau individuel, c'est-à-dire gérer des risques qui s'étalent sur la durée du cycle de vie. Ça, on ne sait pas faire et c'est pour ça qu'on délègue ça à des investisseurs institutionnels. Mais encore faut-il regarder le comportement de ces investisseurs en pratique. Ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, c'est que quand vous placez votre épargne sur les marchés, il y a des risques. D'accord. Et si au départ on a proposé des fonds de pension à prestations définies, c'est-à-dire où les risques étaient portés par l'employeur et donc le fonds de pension gérait ça, c'est parce qu'on considérait que le fonds de pension était l'expert, était capable de gérer ce risque, hein, et pas l'individu. À partir du moment où on propose à des individus des fonds de pension à cotisation définie et que c'est les individus qui portent le risque, là on peut s'interroger de savoir à quoi servent ces investisseurs et est-ce qu'il faut en faire la promotion.
Stéphanie Payet.
Oui, alors je veux juste remettre un peu les choses dans leur contexte. À l'OCDE, on publie des données de manière annuelle sur les fonds de pension et en particulier sur la performance des fonds de pension. Et comme on l'a répété déjà plusieurs fois depuis le début de l'émission, l'épargne retraite, c'est pas juste épargner sur une année, mais c'est épargner tout au long de la carrière. Et donc, c'est plutôt la performance à long terme qu'il faut essayer de regarder plutôt qu'une performance sur une année. Alors évidemment, 2008 a été désastreuse dans la plupart des pays, et fortement. Mais nos données sur les 15 dernières années montrent que dans la plupart des pays, la performance est positive en moyenne et également au-delà de l'inflation. Donc, c'est-à-dire que les fonds de pension ont réussi dans la plupart des pays à, malgré les deux crises que mentionnait Sonia, délivrer des performances au-delà de l'inflation.
Donc cette possibilité de créer des fonds de pension à la française, qui est permis notamment par la loi Pacte, on peut désormais investir donc dans ce plan épargne retraite qui rassemble un certain nombre de mécanismes qui existaient auparavant, ça vous semble une bonne idée ?
Alors nous, à l'OCDE, on aime bien l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc une dose de répartition et une dose de capitalisation, a priori c'est une bonne idée, dans la mesure où ces deux types de systèmes ne font pas face aux crises de la même manière et ne sont pas soumis aux mêmes facteurs de risque. Donc vous avez quand même un gros problème de financement des systèmes par répartition. Dû à l'allongement de la durée de vie et dû aussi à la baisse de la natalité, qui fait que les générations de travailleurs en proportion des générations de retraités vont être de plus en plus faibles. Donc le nombre de travailleurs disponibles pour financer la retraite des retraités va être de plus en plus faible.
Donc il faudrait faire comme l'Allemagne, une fois de plus, introduire une dose effectivement de capitalisation. C'est ce qu'a fait l'Allemagne en 2001, Stéphanie Payet.
Et donc ça permet d'alléger un peu le poids du financement de la retraite du côté de l'État et effectivement de faire reposer une partie de la responsabilité de l'épargne retraite sur l'individu. Après, pour compléter aussi ce que disait Sonia Rigaud, c'est que avec les plans à cotisation définie, vous mettez le risque de financier complètement sur l'individu. Et quand vous avez des gens qui étaient investis à peut-être 50% en actions juste avant la crise de 2008 et qui avaient décidé de partir à la retraite 2-3 ans après, c'est catastrophique. Donc bien sûr, les pays ont pris conscience de ce problème-là et ont proposé des stratégies d'investissement qu'on appelle de cycle de vie, c'est-à-dire où la part investie en actifs risqués est forte quand l'individu est jeune, c'est-à-dire qu'il a le temps de récupérer justement suite à des crises, et cette part d'actifs risqués se réduit au fil des années, et quand vous arrivez presque à l'âge de retraite, vous n'avez presque plus rien en actifs risqués, et donc vous êtes moins soumis aux risques financiers.
Alors on va voir effectivement quelles sont les options qui sont sur la table, qui ont évolué au fur et à mesure des crises que vous avez évoquées, Sandra Rigaud, mais un dernier mot sur ces fonds de pension en France. Qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré la volonté du gouvernement depuis déjà plusieurs années de les développer, cela ne marche pas, il y a très peu de d'épargne qui est mobilisée dans ces fonds de pension.
Alors, juste avant de répondre à la question, je voudrais ajouter quand même quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, faire une performance supérieure à l'inflation, ça donne quoi ? C'est quoi, du 2% ? C'est quoi ?
On a une moyenne d'à peu près, oui, 2%, ouais. 2-3% selon les pays.
Sauf que pour pouvoir respecter les engagements contractuels, il faut faire plus de 2%. Si on veut que le système, là aussi, des fonds de pension soit viable. C'est-à-dire qu'on doit, sur les années 80-90, on est plutôt sur une performance de 8 à 10% des fonds de pension.
C'est ce qui leur est imposé, ouais. C'est ça que vous voulez dire ?
Non, c'est pas imposé, mais c'est ce qu'ils estiment être le rendement nécessaire.
Pour être viable.
Pour que le système soit viable, c'est-à-dire qu'il respecte, que les fonds de pension respectent les engagements contractuels vis-à-vis des salariés.
Alors là, on parle des plans de retraite à prestations définies.
Oui, bien sûr. Et donc là où on le voit bien, il y a une variable qui le donne bien, c'est ça s'appelle le funding ratio. Donc quand on regarde le funding ratio, par exemple, des fonds de pension américains, on voit bien que quand même, ils ont eu du mal. C'est-à-dire le funding ratio, c'est l'actif sur passif actualisé, c'est-à-dire qu'on regarde si avec l'actif du fonds de pension, on peut faire face à ses engagements, c'est-à-dire la totalité des pensions qu'ils doivent verser, actualisées. C'est-à-dire tout ce qu'ils doivent dans 10, 20, 30 ou 40 ans, actualisé à la valeur d'aujourd'hui. Mmh. Et en fait, vous vous rendez compte que les funding ratios, en fait, ils ont baissé et qu'ils ont du mal à remonter. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100%. Ça veut dire que les fonds de pension, même s'ils performent un peu plus que l'inflation, sont loin de remplir leurs engagements contractuels. Donc, dire que en mettant des fonds de pension, en mettant en place des fonds de pension, on résout le problème de la solvabilité des autres systèmes de retraite par répartition, c'est pas tout à fait vrai.
Alors c'est des questions très techniques et on va voir que elles ont aussi évolué dans l'opinion publique après 2001 et après 2008. Mais d'abord donc sur ma question sur les fonds de pension à la française qui ne marcheraient pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'incitations fiscales? C'est en tout cas ce que dit le PDG de Total. Il dit la loi Pacte a certes harmonisé les différents produits d'épargne retraite existants, mais elle n'a pas instauré d'avantages fiscaux et sociaux supplémentaires. Or on a besoin peut-être de ce type d'incitation pour que l'épargne retraite marche, Sandra Rigaud.
Mais moi, je pense que pour répondre à cette question, il faut revenir sur le partage. C'est qui porte le risque ? Donc, si vous demandez, à mon avis, à un Français qui est plutôt frileux hein, sur les placements financiers, s'il veut prendre le risque porter le risque financier, je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord.
Une frilosité qui est peut-être due en particulier à la crise de 2008, mais aussi à la faillite d'Enron en 2001, qui a beaucoup marqué les esprits, au moins aux États-Unis.
À Enron, j'avais une carrière géniale. J'y ai passé plus de 8 années. C'était une entreprise incroyable pour le boulot. Ça me manque. En fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est la sécurité de l'emploi. C'est ce qu'il y a de dingue, parce que lorsque j'étais à Enron, je n'avais pas la sécurité de l'emploi. Je croyais juste l'avoir.
Après notre licenciement d'Enron, j'avais 60 ans lorsque j'ai intégré Enron. Et il me manquait encore 5 pleines années de travail pour pouvoir prendre une retraite complète. C'était comme ça que je l'avais planifié.
Moi, j'étais à 4 ans de la retraite. 55 ans est un bel âge pour prendre sa retraite, passer du temps à la maison et s'occuper de ses petits-enfants. En gros, je reprends tout à zéro, comme si j'avais 20 ans, et je venais d'avoir un diplôme. C'est une situation qui m'effraie, car je ne travaillerai jamais assez de temps pour gagner suffisamment de quoi prendre ma retraite.
Voilà, un extrait d'un documentaire réalisé en 2007 par Emmanuel Amara et qui s'appelle Enron, le casse du siècle. Sandra Rigaud, quelles ont été les conséquences de cette faillite d'Enron, qui était donc cette société de courtage en énergie?
Oui, donc juste pour le rappeler, hein, donc Enron a fait faillite et donc les salariés ont perdu leur emploi. Et en fait, ils se sont aperçus après qu'ils avaient perdu tous leurs droits à la retraite, puisque la plupart du fonds de pension de Enron avait investi une grande partie de l'épargne, je ne sais pas si c'est 80%, dans les actions ou obligations Enron. Donc, dans la mesure où Enron fait faillite, en fait, c'est la double peine pour le salarié. Il a perdu son emploi, il a perdu ses droits de retraite.
Et on a même interdit aux travailleurs de vendre leurs actions qui étaient en train de chuter à l'époque.
Donc, en fait, ce qui a été fait en termes réglementaires, c'est de mettre en place des règles qui empêchent les fonds de pension d'investir plus d'un certain pourcentage dans l'action, dans des actifs financiers émises par l'employeur.
Donc, plus de 10% de l'épargne dans les actions d'une seule entreprise.
Voilà. Donc pour limiter. Mais on voit bien à quel point, là, c'est quand même le système de retraite par capitalisation et donc par le fonds de pension, c'est quand même assez risqué. C'est pas...
Des risques contre lesquels, comme vous dites, la réglementation a essayé, enfin face auxquels elle a apporté un certain nombre de réponses, cette législation américaine qui prévoit aussi, Stéphanie Payet, une diversification des actifs de ces fonds de pension. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de la façon dont ces fonds de pension sont réglementés aux États-Unis ?
Que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, vous avez justement ce qu'on appelle des règles quantitatives sur les investissements. Donc vous avez des limites. Donc pour ce qui est de l'investissement dans les actifs de l'employeur qui sponsorise le plan, vous avez aussi des limites en termes d'investissement dans les actions, dans les hedge funds, donc dans les produits plus risqués, dans tout ce qui est infrastructure.
Mais ils sont moins réglementés, ces fonds de pension, que les assurances vie, par exemple.
Alors c'est pas le même type de...
ils sont réglementés, mais... on peut dire qu'ils sont moins réglementés. Ils ont plus de marge de manœuvre dans la composition de leur portefeuille, dans le sens où ils peuvent investir plus dans des actifs risqués que les compagnies d'assurance. Peut-être on peut dire ça.
Oui, parce que les compagnies d'assurance ont des obligations, puisqu'en général il y a toujours au minimum le capital qui est rendu, etc. Donc tout ça crée des des règles supplémentaires pour s'assurer que même si l'assureur fait faillite, il y aura assez d'argent pour compenser tout ça. Donc ça crée des rigidités supplémentaires pour les assureurs.
Il y a mille manières de placer son argent, mais il y a une manière pour le garder sûrement. Les valeurs minières, on s'en mord les doigts. Combien je préfère ce que fait le petit bourgeois. Il a une tirelire comme les petits enfants. Il a une tirelire avec des sous dedans. Et dans cette tirelire comme les petits enfants, chaque jour sans rien dire, il met des sous dedans. Quand l'État le désire, il brise sa tirelire. Mais comme il est prudent, il la recolle immédiatement. Il a une tirelire comme les petits enfants. Il a une tirelire, lire, 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 lent. Y a pas de milliardaire dans notre pays. Y a pas de Rockefeller ni de Carnegie. Oui, mais on s'en fiche, nous vivons heureux. Nous sommes les plus riches, et pourquoi? Parce que nous avons une tirelire comme les petits enfants. Nous avons une tirelire avec des sous dedans. Au fond de nos tirelires comme les petits enfants, chaque jour sans rien dire, nous mettons notre argent. Quand l'État le désire, nous brisons nos tirelires. Mais comme nous sommes prudents, nous les recollons immédiatement. Qui n'a pas sa tirelire? Répondez-moi franchement. Nous avons nos tirelires, lire, 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 lent. Quand l'État le désire, nous brisons nos tirelires. Mais comme nous sommes prudents, nous les recollons immédiatement. Qui n'a pas sa tirelire? Répondez-moi franchement. Nous avons nos tirelires, lire, 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 lent.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Ah, Léon.
Oui, bonjour. Alors, comme ça, vous voulez retraiter? Pour venir au pays?
Ben, oui et non.
Ben, on est tous bien contents de te revoir.
Notre bien, c'est combien? Il n'y a pas trop à nous péter. L'âge de la retraite, tu l'as?
C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité.
Ah ben, justement, t'étais encore ce que t'étais. Ah.
14 de tension, quand on m'emmerde pas. Des réflexes de conscrit. Et un ciboulot comme neuf. Enfin, Jean-Marie, toi qui es impartial.
Oh, impartial.
Ouais, quoi, est-ce quoi, qu'on se prive d'un homme qui a parcouru pendant 35 ans la ligne Pithiviers étant Pithiviers? Pithiviers étant Pithiviers tous les jours. Vous savez qui ce que ça fait?
Les voyages, on a beau dire, hein. Il n'y a rien de tel pour voir du pays.
Voilà un extrait du film Les Vieux de la Vieille avec Jean Gabin, sorti sur les écrans en 1960. Stéphanie Payet et Sandra Rigaud sont toujours avec nous pour parler des fonds de pension qui apparaissent souvent comme une solution face au problème du vieillissement de la population dans un certain nombre de pays, alors même que, comme on commençait à le dire, Sandra Rigaud, c'est un système qui montre un certain nombre de failles lorsque les marchés financiers sont en crise, et ça a été le cas en 2008.
Oui, et donc si on doit comparer les deux, moi je dirais toujours, je raisonne en termes de risque, hein, je dirais que dans un système de retraite par capitalisation, vous avez tous les risques que vous retrouvez dans un système de retraite par répartition, donc je pense aux risques démographiques, inflation, etc., mais aussi le risque de marché. Et ça, donc dire que on va régler les problèmes du système de retraite par répartition en remplaçant progressivement par un retraite de capitalisation, ça va pas forcément résoudre. Ça rajoute un risque. Donc quand les marchés sont haussiers, tout va bien. Mais quand les marchés sont baissiers et on sait qu'on va avoir des crises financières et que les taux sont bas, voire on a des taux négatifs, comment vous faites pour faire de la performance? Vous allez vers des produits risqués. Et les fonds de pension l'ont fait, les fonds de pension américains, ils ont investi beaucoup dans les hedge funds dans les années 2000.
Les hedge funds qui sont des fonds spéculatifs.
Qui sont des fonds spéculatifs. Pourquoi? Parce que ils promettent des performances très élevées. On est sur du 15, 20, 30%. Donc pour un fonds de pension, c'est très intéressant. Mais si vous pouvez espérer une rentabilité aussi élevée, c'est aussi qu'il y a des risques. Donc il faut aussi voir le contexte actuel de taux bas. comment vous allez faire pour comment les fonds de pension font pour dégager une performance aussi élevée.
Alors il faut voir effectivement quelles ont été les conséquences concrètes sur les salariés et sur les retraites, Stéphanie Payet, de cette crise de 2008.
Ah bah clairement, hein, comme aux États-Unis, quand vous avez une chute de 40% des actifs, de la valeur des actifs, ça se traduit immédiatement. Alors ça dépend si vous êtes dans un plan à prestation définie ou à capitalisation définie. Et là encore, il faut bien faire la distinction parce qu'on a l'impression que finalement, du point de vue du salarié, il n'y a plus aucun problème dans les plans à prestation définie et tous les problèmes existent et sont concentrés sur les plans à cotisation définie. Alors
dans les plans à cotisation définie, là, dans les deux cas, avec la crise, ça a posé problème.
Parce que finalement, dans les plans à cotisation définie, ça se traduit immédiatement et directement sur le niveau de retraite, puisque vous avez moins d'actifs accumulés à la retraite. Si vous n'avez pas eu le temps de récupérer suite à la crise, vous avez moins d'actifs accumulés pour financer votre retraite. Dans les plans à prestations définies, finalement, c'est l'employeur qui a des difficultés, puisqu'il s'est engagé à payer des prestations qui sont calculés en fonction d'une formule qui s'appuie sur les salaires de l'employé. Donc si d'un coup le fonds de pension, la valeur des actifs accumulés dans le fonds de pension chute de 20%, c'est à l'employeur de financer le trou. Et en situation de crise, on parlait de la double peine tout à l'heure pour les employés, mais là c'est la double peine pour l'employeur qui, en temps de crise, doit augmenter les prestations dans ces types de plans.
Alors on va prendre un exemple concret, c'est Détroit, qui est la plus grande ville américaine à avoir jamais fait faillite, c'était en 2013.
Après avoir étudié attentivement le rapport financier de nos équipes, j'ai conclu qu'il y avait bien une situation d'urgence fiscale à Détroit. Nous sommes dans cette situation parce que la ville de Détroit a connu une chute vertigineuse de sa population, passée de 1,8 million dans les années 50 à 700 000 aujourd'hui. Malgré cette chute, la mairie n'a pas su évoluer et adapter le niveau des services publics.
Vous avez fait une promesse, dit ce retraité municipal. Vous ne pouvez pas juste dire « oubliez ça ». Ils ont laissé la situation pourrir assez longtemps et ils ont dit « ce n'est pas mon problème, je ne serai plus en poste, je ne serai plus là ». Tout ça les rattrape maintenant. Je ne pense pas que ce soit juste que nous soyons touchés. Nous avons payé notre dû.
Voilà, on entendait Rick Snyder, d'abord le gouverneur du Michigan, et ensuite le témoignage d'un retraité de la ville. Sandra Rigaud, on peut dire que Détroit a fait faillite à cause, entre autres, du déficit abyssal de ses fonds de pension.
Alors, je connais pas la situation de Détroit en particulier, mais là encore, je reviens sur ma typologie. Donc, il faut différencier les fonds de pension qui sont à prestations définies, à cotisations définies, et les fonds de pension qui sont publics et privés. D'accord ? Donc, public, ça veut dire que l'employeur, c'est l'État. Et privé, c'est une entreprise privée. Pourquoi c'est important de distinguer ça ? C'est parce que généralement, les fonds de pension publics, ils sont systématiquement à prestation définie, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui porte le risque. Alors que là, en ce moment, depuis 20 ans, les fonds de pension privés, ils sont essentiellement à cotisation définie. Donc quand vous avez un fonds de pension qui est en difficulté, si c'est l'État, si ça c'est un fonds de public, vous avez toujours la possibilité de faire appel d'augmenter les impôts pour essayer de payer les retraites. Tandis que quand c'est privé,
Oui, enfin, quand vous faites faillite, comme ça a été le cas pour la ville de Détroit, où il y a eu aussi les villes de Cleveland, de Loyalton, qui ont été touchées. À ce moment-là, il n'y avait vraiment aucune possibilité de réaction à Stéphanie Payet. En l'occurrence, beaucoup de gens ont perdu une part importante de leur salaire pour certains, enfin, et de leur retraite pour certaines catégories de fonctionnaires. Ça a pu atteindre des baisses de 20%.
Oui, alors je pense qu'il faut aussi, se souvenir du fait que voilà dans ces fonds de pension où le sponsor finalement c'est l'État, c'est la municipalité, c'est l'État américain. Il y a eu un certain nombre d'années où les institutions ont un peu laissé couler. Et les cotisations qui auraient dû être payées au fil de l'eau n'ont pas forcément été. Ce qui fait qu'après ils se sont retrouvés dans une situation de crise où le ratio de financement où le funding ratio, comme on en a parlé précédemment, était bien, bien en deçà de 100%, mais parce qu'il y avait un historique derrière de cotisations qui n'avaient pas été finalement payées dans les temps. Et pour contrer ça, vous avez des systèmes comme aux Pays-Bas, qui sont aussi à prestations définies, qui sont privés, mais l'État est très présent pour réguler les choses et l'État impose à tous les fonds de pension d'avoir un ratio de financement au-delà de 100% tout le temps. Et dès que ce ratio passe en dessous de même 104%, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en branle pour restaurer la situation.
Donc il y a eu un problème de réglementation, de surveillance aux États-Unis. Alors vous parlez des Pays-Bas, c'est intéressant parce qu'il y a une réforme justement qui est en cours. Le montant des retraites va pouvoir fluctuer en fonction de la conjoncture économique. Et alors c'est lié, c'est ce que dit le gouvernement, au fait que depuis, qu'au-delà de la crise de 2008, les fonds de pension souffrent des taux bas. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, de faire fluctuer les montants des retraites sur la conjoncture économique, Stéphanie Payet?
Alors, les taux bas, en particulier sur les plans de retraite à prestations définies, une des conséquences directes, c'est d'augmenter la valeur des engagements calculés en valeur actualisée. C'est-à-dire que, comme l'expliquait tout à l'heure Sandra Rigaud, vous prenez la totalité des engagements qui doivent être payés aujourd'hui, mais aussi dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et vous les valorisez en termes d'aujourd'hui. Et pour cela, vous utilisez les taux d'intérêt des marchés, et notamment des obligations d'État. Et quand ces obligations d'État ont des taux très faibles, voire négatifs, forcément, ça augmente la valeur de vos futurs engagements et ça déséquilibre votre ratio de financement actif versus passif.
C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les fonds de pension font face à des difficultés aux Pays-Bas, mais ailleurs.
Tout à fait.
Et alors face à cela, le fait de pouvoir fluctuer en fonction de la conjoncture économique, c'est une des options qui a été choisie par les Pays-Bas. Mais aux États-Unis, par exemple, depuis 2014, les fonds peuvent réduire les pensions en cas de grosses difficultés financières. Donc il y a à nouveau un verrou qui a sauté, Sandra Rigaud, alors que avant cela, ça n'était pas possible. Et donc, les futurs retraités étaient davantage protégés.
Non,
ça a toujours été possible.
Non,
c'est toujours pas possible, je crois.
Les montants pouvaient baisser si jamais le fonds de pension n'avait pas suffisamment de performance. Mmh. Donc non, je crois, je suis...
Stéphanie Payet, sur cette question.
Moi, il me semble qu'aux États-Unis, la promesse est plus ou moins écrite dans la pierre. Et le seul moyen pour un employeur de ne pas engager, enfin de pas respecter ses engagements, finalement, c'est de fermer le fonds. De choisir un assureur qui paiera à sa place.
Ou de parvenir peut-être à un consensus social, c'est-à-dire que par exemple les métallurgistes de Cleveland ont voté la réduction de leur pension de retraite à hauteur de 20% en moyenne, avec cette idée qu'ils n'avaient de toute façon pas le choix, Sandra Rigaud.
Oui, alors l'assureur dont vous parlez, il est uniquement valable pour les fonds de pension privé à prestations définies. Je ne sais pas si vous me suivez.
Alors expliquez-nous.
Fonds privés, c'est pour ça. Hein,
On a bien compris que cette distinction était absolument essentielle.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer la réglementation du fonds de pension. Et donc, si vous êtes un fonds de pension à prestations définies publiques, en gros, c'est toujours le cas. D'accord ? Le risque est porté par l'employeur, donc l'État, en fait. Là, il n'y a pas d'assureur, parce qu'on considère qu'on peut lever les impôts. D'accord ? Sauf quand, évidemment, en situation extrême, l'État fait faillite, enfin, la vie fait faillite. Ouais. Si vous êtes un fonds de pension à prestations définies privées, donc le risque est porté par toujours l'employeur, une société privée, là, il existe un assureur. Mais là encore, c'est comme pour les banques, avec le fonds de garantie des dépôts. Encore faut-il qu'il soit suffisamment abondé et qu'il ait suffisamment d'argent pour se substituer au fonds de pension qui fait défaut, en fait, d'une certaine façon. Par contre, si vous êtes un fonds de pension à cotisation définie privée, ce qui est le cas actuellement, c'est-à-dire le risque est porté par le salarié, il n'y a pas d'assureur.
Et alors, quelles conséquences ça...
Il n'y a pas...
Parce qu'il n'y a pas de promesse.
Oui, parce qu'il y a... Voilà, merci de le dire. Il n'y a pas de promesse, c'est-à-dire... du coup, la question qui se pose, c'est... Moi, je suis un Américain salarié du secteur privé, mais... Quel est mon intérêt à cotiser auprès d'un fonds qui ne me fait pas de promesse, c'est-à-dire qui ne me dit pas que je vais toucher un pourcentage de mon dernier salaire ou des 15 dernières années de mon salaire, et que c'est moi qui vais porter le risque de financier, puisque c'est moi qui vais choisir finalement la formule de placement. Si c'est moi qui l'a choisi, je suis responsable. Quel est l'intérêt? C'est vraiment une question qui se pose, et on le voit, alors je sais pas, je connais moins bien l'industrie britannique des fonds de pension, mais on voit de plus en plus de salariés qui ne cotisent plus. Et donc ça, c'est juste une catastrophe, parce que c'est pas au niveau individuel qu'on va pouvoir gérer un risque de long terme.
Alors je crois que justement, aux États-Unis, on a assisté, au Royaume-Uni, pardon, Stéphanie Payet, on a assisté à des taux de cotisation de plus en plus importants, enfin d'engagement des salariés de plus en plus importants.
Ah oui, alors en 2012, le Royaume-Uni a mis en place quelque chose en fait dont l'efficacité a été prouvée au départ aux États-Unis, qui s'appelle l'adhésion automatique. Donc le principe, c'est qu'au Royaume-Uni, tous les employeurs depuis 2012 ont l'obligation de créer un plan de retraite pour leurs salariés et automatiquement d'enrôler leurs salariés dans ce plan de retraite.
Et de plus en plus de salariés ont été couverts.
Voilà, la différence avec un plan complètement obligatoire, c'est que le salarié peut dire « non, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais ». Mais par défaut, vous êtes, en tant que salarié, dans le plan de retraite et vous cotisez. Et il y a un niveau de cotisation par défaut qui est partagé entre le salarié et l'employeur. Donc l'employeur cotise au minimum 3% du salaire et le salarié cotise au minimum 5% du salaire. Donc si vous ne faites rien, et c'est là où cette solution est belle, c'est-à-dire si vous ne faites rien, vous êtes automatiquement à cotiser au moins 8% de votre salaire. Alors qu'avant, si vous ne faisiez rien, même si l'employeur proposait un plan de retraite, vous ne participiez pas.
Alors le temps file, malheureusement. Il y a une autre question que je voulais soulever, qui est celle de la gouvernance et plus largement celle de la direction qui est donnée à ces fonds de pension, c'est-à-dire dans quoi est investi cet argent. Et en l'occurrence, peut-être qu'il faut dire un mot des asset managers, qui sont ces intermédiaires entre les fonds de pension et les marchés financiers. Ce qui peut poser question, Sandra Rigaud, c'est le fait qu'on leur demande d'être performants à ces intermédiaires, ce qui revient souvent à faire des investissements de court terme, là où ce qu'on nous vend d'intéressant dans les fonds de pension, c'est la possibilité des investissements de long terme, justement.
Oui, alors là, c'est difficile en deux minutes. Mais
il nous reste quand même quelques minutes.
Ah bon, d'accord. Donc un fonds de pension, il collecte énormément d'épargne et il peut pas gérer, c'est-à-dire qu'il peut pas placer directement cette épargne sur les marchés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe par un asset manager, une société de gestion qui propose des fonds, hein, des OPCVM, n'importe quoi. Donc ça veut dire que le fonds de pension n'investit que indirectement sur les marchés. Et donc il délègue la gestion d'une partie de son portefeuille. Alors évidemment, il est responsable, donc s'il délègue, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il contrôle ses gérants externes. Et généralement, d'abord, il les sélectionne et il les contrôle au regard de sa performance. Et donc, il va pas faire... On sait que l'horizon de placement d'un fonds de pension, c'est normalement... Comme il collecte une épargne très très longue, il doit s'intéresser à... une performance sur le long terme. Mais vous voyez pas un fonds de pension responsable contrôler son gérant sur une période de 20 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire sur un an ou sur des périodes beaucoup plus courtes.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il ne faudrait pas passer par ces intermédiaires?
Déjà, en fait, ce qu'on voit, c'est que le fonds de pension, en déléguant et en contrôlant son gérant, va le faire sur la rentabilité à court terme. Alors que normalement, son objectif, c'est de délivrer une rentabilité à long terme. Il n'a pas de contrainte de liquidité, contrairement à une banque ou à une compagnie d'assurance vie. On est sur des horizons de 10, 20, 30 ou 40 ans, quand c'est un jeune fonds de pension.
Et alors, est-ce que là, justement, cela dépend de la gouvernance des fonds de pension? Et comment est-ce qu'on peut inciter ces investisseurs institutionnels à adopter des stratégies d'investissement à plus long terme, Stéphanie Payet?
Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé hier avec les fonds souverains, mais au Japon, il existe un très, très gros fonds souverain. Les fonds de pension peuvent s'inspirer de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que eux aussi ils gèrent une masse d'actifs très importante et eux aussi délèguent à des asset managers. Et la façon qu'ils essayent en tout cas de réaligner l'intérêt des asset managers avec l'intérêt du fonds de pension qui est un investisseur de long terme, c'est via les frais. Parce que finalement, l'asset manager, il fait pas ça gratuitement. Hein. Il y a bien sûr des frais qui sont prélevés pour la gestion de ces actifs. Et donc finalement, le Japon a trouvé un moyen de lier les frais qui vont être payés à asset manager à la performance de long terme. Ils vont pas regarder seulement la performance de l'année en cours, mais ils vont regarder la performance sur plusieurs années et s'assurer que s'il y a par exemple une crise avec des rendements qui deviennent négatifs, l'asset manager ne va pouvoir recevoir des frais que quand il aura récupéré au moins cette perte.
Et alors, est-ce qu'on peut envisager la même stratégie pour inciter les fonds de pension à investir davantage dans des entreprises qui seraient respectueuses des objectifs de l'accord de Paris? Parce qu'il y a une étude de Asset Owner Disclosure Project qui disait qu'à peine 10 fonds de pension publics sur les 100 plus importants se sont engagés à respecter ces objectifs de l'accord de Paris. Alors, comment est-ce qu'on peut inciter ces fonds à aller vers des mécanismes d'investissement plus verts, Stéphanie Payet?
Alors, ils le font de plus en plus. Mais la question, c'est comment on mesure l'aspect vert d'un investissement. Parce que finalement, il y a tellement de critères en place que c'est difficile de vraiment donner le tampon. Oui, celui-là est vert, celui-là, il n'est pas vraiment vert.
Bah, selon l'étude, seuls 12% de ces fonds de pension publics, de ces 100 fonds de pension publics plus importants, sont engagés à exclure tout investissement lié à l'industrie du charbon. Là, au moins, c'est assez clair.
C'est
si on s'éloigne du charbon, on sait que c'est bon.
La clé, en fait, c'est que il faut se rappeler que le fonds de pension est là pour délivrer une performance pour les retraités. Ses clients, ses futurs retraités. Alors évidemment, c'est d'autant mieux si les investissements peuvent profiter à la société en général. Mais le fonds de pension a ce qu'on appelle une fiduciary duty, une responsabilité envers ses membres. Donc si investir vert, ça veut dire avoir des performances moins bonnes, c'est là où il peut y avoir conflit. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes mesures pour savoir si un investissement est vert, mais pas seulement vert aussi. Est-ce que la compagnie dans laquelle le fonds de pension va investir a une bonne gouvernance, respecte les hommes et les femmes, ce genre de choses, pour avoir tous ces critères et faire des investissements en sachant tout cela.
Sandra Rigaud, sur ce point.
Donc pour réduire le court-termisme des fonds de pension, je pense qu'il faut vraiment réduire à la cascade de délégation vers des asset managers externes. Je pense que c'est l'allongement de la chaîne d'intermédiation, avec à chaque fois, il faut rémunérer l'asset manager avec des commissions. Ils prennent pas forcément le risque.
Donc il faut désintermédier selon vous.
Alors pas désintermédier, attention, c'est un terme bien technique. Je dirais raccourcir la chaîne d'intermédiation financière. Parce que entre le salarié américain qui va cotiser auprès du fonds de pension et finalement l'entreprise qui va peut-être toucher l'argent qui vient du fonds de pension, parce que les fonds de pension ce sont des actionnaires, ils achètent des actions, des obligations, vous avez plein d'intermédiaires de marché qui sont rémunérés, qui prennent pas le risque, qui sont bien rémunérés. Et au final, l'intérêt du salarié, je ne sais pas s'il est respecté, et le fonds de pension peut mettre sous pression l'entreprise. Qui a comme actionnaire un fonds de pension qui est désireux.
Alors cette fois, on arrive vraiment au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être très rapidement, Sandra Rigaud, Stéphanie Payet, sur l'avenir de ces fonds de pension, à l'heure où, avec le vieillissement aussi de la population des pays en développement, ils sont amenés sans doute à grandir, Stéphanie Payet.
Tout à fait, je pense que ça fait partie des solutions d'avoir une part de capitalisation dans un système de retraite.
Sandra Rigaud.
Non, je pense que pour avoir fait beaucoup d'entretiens dans le secteur financier, le système français est vraiment le meilleur. Le système de répartition française est vraiment le meilleur. C'est celui qui essaie de couvrir le plus grand nombre, la population la plus large. Et donc je pense que c'est important de ne pas mettre sur le côté de plus en plus de personnes. Et donc il faut essayer de renforcer ce système et de ne pas basculer vers un système de retraite par capitalisation.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
L'acier européen échappera-t-il au laminage de ses parts de marché par la Chine? L'annonce du rachat de British Steel par le chinois Jingye suscite crainte et espoir mêlés, y compris en France.
Et oui, puisque l'usine d'Ayange en Moselle fait partie des 7 sites de British Steel qui sont rachetés par Jingye. Et en France comme au Royaume-Uni, effectivement, les réactions sont plutôt réservées ou mitigées concernant l'avenir de l'emploi à Ayange, qui emploie 420 personnes. Plus qu'ailleurs peut-être en Union européenne, où l'usine a changé 5 fois de propriétaire en 10 ans. Jingye laisse entendre qu'il fera, je cite, des offres à autant d'employés que possible, mais la CFDT Ayange dit n'avoir pas vu le projet. Alors sauvetage ou signe d'une nouvelle crise, British Steel, le deuxième fabricant anglais, était en faillite. Les industriels européens, eux, alertaient en avril d'un risque d'élimination, je cite encore, de la totalité de la sidérurgie en Europe. Et en France, où des dizaines de milliers d'emplois ont été perdus depuis les années 2000. Un rapport sénatorial tentait cet été de prendre les devants avec 30 mesures pour donner des armes à la sidérurgie française, notamment intensifier le recyclage ou créer un ministère de l'industrie. Des mesures qui laissent un peu sceptique Didier Julien, il est professeur à l'école de guerre économique.
Les géants chinois de l'acier produisent beaucoup plus que la moitié de l'acier mondial. Ils sont dans des stratégies de coût-volume et réussissent à exporter leur production dans le monde entier. Ce qui se passe en Angleterre, British Steel, les Chinois ne rachètent pas de capacité, ça ne les intéresse pas beaucoup, ils en ont beaucoup en Chine. Ils s'intéressent beaucoup plus à des réseaux de distribution. Les Chinois ont déjà dit que ce rachat pourrait être financé en partie par des baisses d'emplois. Donc je ne sais pas si c'est en Angleterre ou autre part, mais ça a déjà été dit. Néanmoins, redonner de la puissance à l'industrie en France peut se faire grâce à de l'acier que j'appellerais vert, c'est-à-dire avec moins de carbone. Donc c'est du recyclage. Mais ça a une limite. On ne peut pas fournir toute la consommation européenne uniquement avec du recyclage. Mais on pourrait très bien commencer par là. Quant à faire un ministre de l'Industrie en France, ça devrait être presque une arlésienne, parce que, bien sûr, il faudra en avoir un. Bien sûr qu'il faudrait un vrai ministère de l'Industrie qui puisse avoir une vision industrielle. Encore faut-il que ce ministre ait un passé industriel pour vraiment comprendre de quoi on parle.
La sidérurgie française emploie encore 38 000 personnes. Une chose est sûre, entre la compétitivité et l'emploi, le secteur risque de souffrir encore, Xavier.
Et oui, puisqu'il y a plusieurs facteurs qui s'accumulent. La surproduction mondiale, des prix bas donc, et puis un matériau cher. British Steel n'est pas le seul à avoir des ennuis. Selon Le Monde, ArcelorMittal est aussi en difficulté et tente de réduire sa production dans plusieurs pays d'Europe, en France, notamment à Dunkerque, ou à Iceberg, qui a été mis plusieurs fois au chômage partiel. Et puis deux choses sont à peu près sûres selon les spécialistes. L'acier français et européen ne se sauveront pas, ou ne sauveront pas plutôt les usines, sans virage technologique, décarbonisation ou recyclage. Et pour les hauts fourneaux, c'est fini, pas sûr que les emplois restent.
On passe au Brève, et lui a justement été ministre de l'Industrie. Alors est-ce qu'il ira plus loin? Le français Thierry Breton vient de réussir de justesse la première partie de son oral devant le Parlement européen.
À 12 voix contre 11, donc de justesse effectivement, pour ne pas prolonger cette séance de questions liée à un potentiel conflit d'intérêts. Pour ce candidat choisi par Emmanuel Macron pour remplacer Sylvie Goulard comme méga commissaire européen à la concurrence, l'industrie, la défense numérique, et qui serait le premier ancien patron à occuper une telle responsabilité dans l'Union européenne. L'ancien dirigeant affirme s'être débarrassé de tout lien avec le secteur privé, notamment environ 580 000 actions chez Atos et sa filiale Worldline, et puis 4 mandats dans des conseils d'administration. Mais sa proximité avec certaines entreprises stratégiques comme Atos, qui est spécialisée dans la cybersécurité, inquiète certains députés. Aujourd'hui, il était devant la commission des affaires juridiques, et puis jeudi, ce sera le vote du Parlement.
Et pour finir, on revient en Chine, ou plutôt en Grèce, où Pékin soigne son alliance commerciale avec Athènes.
C'est ça, une visite officielle du président chinois, 16 nouveaux contrats à la clé. Xi Jinping, qui qualifie les deux pays d'alliés naturels dans la construction des routes de la soie, qui tient à montrer que la Grèce est bien sa tête de pont en Union européenne, symbolisée par le port du Pirée. Et pour la première fois en Grèce, cette fois parmi les 16 contrats, la présence à venir de deux grandes banques chinoises, alors relation gagnant-gagnant ou dangereusement asymétrique, selon un analyste athénien interviewé par Al Jazeera, la Grèce ne gagnerait qu'1% des revenus du Pirée.
Merci beaucoup Xavier Martinet. On peut retrouver votre journal de l'écho sur franceculture.fr et en podcast. Et un grand merci à vous Stéphanie Payet, Sandra Rigaud, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Demain, on s'intéresse à un fonds d'investissement plus méconnu encore, mais qui prend une importance croissante. Il s'agit des fonds activistes. Vous saurez tout sur ces fonds spéculatifs qui se différencient des fameux fonds vautours grâce à Gunther Kappel-Blanquart et Muriel Goldberg-Darmon. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émission sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.